maladie qui avait été diagnostiquée par les médecins de l'époque, les situations qui avaient été emprisonnées. Jésus est celui qui est capable d'ouvrir des portes. Et je crois vraiment que sa volonté cet après-midi, c'est également de faire la même chose. Nous allons faire une lecture ensemble dans le livre de Jean, au chapitre 3, et au verset 1er. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » Jésus est le véritable miracle. Et je crois qu'il n'y a pas plus bel exemple de miracle que la vie de Jésus, que ce soit avant cette vie-là, au moment de sa naissance, où cette naissance a été annoncée par un ange, mais que ce soit tout au long de sa vie. Partout où il est passé, des miracles ont été accomplis. Partout où il est allé, il a fait du bien à ceux qui étaient dans la souffrance, ceux qui souffraient dans leur corps, ceux qui avaient des difficultés. C'est celui qui a pu tout se rétablir. Et je crois que ce qui est important, c'est de savoir ce que c'est le miracle. C'est finalement le point de rencontre entre un besoin venant de l'homme et une situation que Dieu peut transformer. C'est le point de rencontre entre un besoin exprimé par un homme, par un cœur en souffrance, et la capacité venant de Dieu. Et je crois que les conditions pour qu'un miracle existe sont simples. Il suffit d'abord de la présence de Dieu, j'ai dit tout à l'heure. Il suffit de la capacité de celui qui est capable de créer le miracle, et c'est Jésus. Mais il y a aussi besoin de personnes qui sont disposées de rencontrer Dieu. Et Jésus va faire un miracle dans la vie de Nicodème en se révélant à lui, en lui parlant et en touchant son cœur. On va le voir en trois points cet après-midi. Tout d'abord, il va y avoir une soif de vérité de la part de Nicodème. Il va être dans de bonnes dispositions. Il va se rapprocher de Jésus malgré son statut, malgré son importance. Malgré son milieu social, Nicodème va se rendre compte qu'il passe à côté de l'essentiel, tout simplement. Il va comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement et que sa faim et sa soif de vérité ne peuvent pas être remplies par les besoins de ce monde, par les solutions que le monde va lui proposer. Il va comprendre qu'au-delà de tout ce que la société peut lui apporter, Christ peut lui apporter bien plus. Aujourd'hui, on est dans une société qui crée des besoins et qui crée aussi des solutions à ses besoins. On est dans une société où tout est vendu et chaque mois, il y a de nouvelles innovations. Par exemple, on crée des aspirateurs qui se déplacent tout seuls dans nos appartements. On crée des objets, des robots qui sont capables de nous donner l'heure, de nous donner la météo. Tout est créé pour l'homme, pour faciliter la vie. On crée des voitures qui sont capables de faire des créneaux pour l'homme. Pourtant, ce n'est pas utile pour l'homme. Bon, parfois, ça peut être utile pour la femme, mais pas forcément pour l'homme. Là, normalement, les hommes disent « Amen » et ils sont d'accord. Mais ce n'est pas toujours utile pour l'homme. Mais l'homme est dans une logique et dans une spirale où il se crée ses propres besoins et il passe à côté de, de son véritable besoin, de son besoin de Dieu. Est-ce que nous avons conscience dans notre soif de vérité, dans notre soif d'espoir que nous avons besoin de bien plus? Et ce bien plus, il ne viendra pas de tout ce qui est ici-bas. Ce bien plus, il ne viendra pas de ces besoins qui sont créés par l'homme, de ce quotidien qui va commencer demain déjà avec la reprise du travail et avec le rythme que la société veut nous imposer. Mais ce bien plus, il vient directement de Dieu. Nicodème, il va en prendre conscience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré le statut qu'il a réussi à avoir, après toutes ces années de travail, malgré la place qu'il va occuper dans la société, il va se rendre compte que ce Jésus est capable de bien plus dans sa vie. C'est celui qui guérissait les malades, je l'ai dit tout à l'heure. C'est celui qui est capable de détruire toutes les frontières que l'homme s'est posées. Peut-être que toi aussi, comme Nicodème, et comme la religion nous le montre, peut-être que tu t'es posé des frontières dans ta vie, des limites avec Dieu, et que Dieu est celui qui veut te dire, il faut que tu ailles au-delà des limites que tu t'es posées. Il faut que tu ailles au-delà des lois que tu t'es fixées. Il faut que tu franchisses tous ces principes que tu t'es donnés. Et en faisant cela, tu seras récompensé par Christ. C'est la pièce essentielle du puzzle dans notre vie. C'est ce besoin de Dieu. Et Blaise Pascal dira cette phrase-là que Dieu a mis dans le cœur, que l'homme a mis dans le cœur en forme de Dieu. Et c'est aussi ce que l'Ecclésiaste dit dans la Bible, que l'homme a vraiment ce besoin de Dieu, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité pour que chacun d'entre nous puissions le rechercher. Nicodème va faire preuve d'humilité. Il va mettre de côté ses principes, il va mettre de côté ses traditions et se rapprocher de Dieu. Et il va ainsi s'adresser à la bonne personne. Jésus est la bonne personne. Son nom signifie « Dieu sauve ». Dieu sauve d'une situation particulière. Et Dieu est celui qui intervient dans les problèmes de nos vies. Il est celui qui veut se manifester en la personne de Jésus-Christ. Jésus est l'image même de Dieu, celui qui était capable de pleurer pour les morts, celui qui était capable de secourir des personnes qui étaient dans la difficulté, celui qui est capable de venir et transformer ton quotidien. Ce n'est pas simplement un homme qui est capable de choses extraordinaires, mais c'est vraiment l'image de Dieu, et j'insiste là-dessus. Son nom, Jésus, qui signifie « Dieu sauve », et également Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous ». Dieu avec nous tous les jours de nos vies, dans les moments difficiles, mais également lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes dans notre quotidien. C'est vraiment celui qui veut nous faire du bien. Et le tout n'est pas simplement de se rapprocher d'une religion cet après-midi. Le tout n'est pas simplement de savoir et de connaître un fonctionnement, mais le Seigneur désire vraiment bâtir avec nous une véritable relation. Il désire bâtir avec nous quelque chose de profond, quelque chose de vrai, quelque chose de pur. Et pas simplement un dialogue qui ira dans un seul sens. Et c'est ça la religion finalement. C'est uniquement un dialogue bien souvent de la part des hommes vers Dieu, mais où les hommes n'écoutent pas Dieu venir à eux. Et Jésus est celui qui permet que le dialogue aille dans les deux sens. Nicodème veut également se poser des questions essentielles. C'est le troisième point. Il ne va pas rentrer dans une confrontation avec Dieu. Il ne va pas vouloir imposer ses idées. Il ne va pas non plus simplement chercher à s'opposer avec Dieu. Mais il est conscient des moments qu'il vit. Et là où deux ou trois sont assemblés, dit la Bible, Jésus est au milieu d'eux. Et rendez-vous compte, lorsque Jésus est là, des miracles sont faits, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque Jésus est là, il y a des transformations de vie, il y a des situations qui sont rétablies, il y a des délivrances qui ont lieu parce que Jésus est là. Et Nicodème s'en rend compte. Et je crois que dans sa démarche, il va aussi partir d'un constat tout simple. Mais si Dieu est là, je ne veux pas passer à côté. Si dans ces instants simples, dans ces instants d'intimité, où j'ai l'occasion de me rapprocher de Dieu au travers de ce Jésus, s'il est là, je ne veux pas passer à côté. Et pourtant, tout est dépeint. Il y a vraiment des éléments négatifs entre Nicodème et Jésus. Parce qu'il vient, en fait, de la secte juive, les pharisiens qui sont les ennemis de Christ. Il a été enseigné à ne pas aimer Christ. Et dans ses racines, dans sa tradition, tout le séparait de Jésus. Tout le séparait de cette véritable relation. Dans la religion qu'il a connue, dans les propos qu'il écoutait à l'époque. Mais il va accepter de ne pas passer à côté. Et il va écouter Jésus pour ensuite passer de la théorie à la pratique. Et c'est ça la véritable définition du miracle. Je le rappelle, c'est vraiment la rencontre entre un besoin d'homme et la délivrance de la main de Dieu. Et ne passe pas à côté cet après-midi peut-être du miracle que Dieu a prévu pour toi. passe pas à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a trop d'éléments qui convergent vers Christ. Il y a trop d'éléments qui faisaient dire à Nicodème qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans la personne de Jésus. Et c'est la vérité. Ce n'est pas simplement un faiseur de miracles, ce qui est déjà énorme. Ce n'est pas simplement un discoureur, ce qui est déjà énorme. Mais c'est celui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est celui qui est capable de changer toute circonstance, toute situation. Et j'aime me rappeler que Jésus est venu pour les pauvres, pour les personnes humiliées, pour les personnes qui avaient besoin. Et Jésus, c'est Dieu qui répond à la prière. C'est celui qui rétablit le dialogue et qui veut recréer la communication entre le Père et nous, entre le Créateur et ses créatures. Je le répète, nous avons été créés pour bien plus que le quotidien de la vie, dans lequel l'homme est tombé pendant bien trop longtemps et dans lequel peut-être tu tombes depuis bien trop longtemps. Et c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Tu as été créé pour bien plus que ça. Tu peux aller bien plus loin que cela. Et je crois que dans notre démarche d'homme, lorsqu'on cherche à venir vers Dieu, il y a deux questions qu'on peut se poser et qu'on se pose bien souvent. La première qui va s'afficher derrière moi, c'est pourquoi ? Bien souvent, lorsqu'on parle à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, elles se posent cette question. Si Dieu existe, pourquoi ? Pourquoi y a-t-il la guerre ? Pourquoi est-ce qu'il y a la faim dans le monde ? Pourquoi cette situation que je connais ? Pourquoi ces moments difficiles ? Et le pourquoi, comme ça va s'afficher derrière moi, le pourquoi mène à la cause. Le pourquoi mène souvent à la cause et au passé, à des moments peut-être difficiles et à des réponses bien souvent théoriques. Et le danger du pourquoi, lorsqu'il se répète trop souvent, c'est qu'il va nous enfermer dans une prison, il va nous enfermer dans une vision limitée de la situation, voire dans une obsession. Et à force de se demander pourquoi, on oublie de se poser une question qui est bien plus souvent essentielle, surtout en situation d'urgence, c'est celle qui va s'afficher également derrière moi, c'est comment ? Pourquoi et comment ? Face à un danger, quelle est la meilleure des réponses ? Vaut mieux-il se poser la question pourquoi ou se demander comment ? Face à un danger, face à une situation difficile, par exemple, si vous êtes dans une situation compliquée ou que vous n'arrivez pas à vous en sortir, il vaut mieux savoir comment s'en sortir que pourquoi vous en êtes là. Et Jésus est celui qui a répondu à l'urgence. Dieu répond à toutes les questions. Je vais être clair là-dessus. Il est capable de répondre à toutes les questions parce qu'il a la sagesse nécessaire. Mais bien trop souvent, les hommes n'entendent pas sa réponse. Et les hommes s'enferment dans le pourquoi de la vie sans savoir comment. Pourquoi nous vivons, mais comment devons-nous vivre ? Et Jésus est celui qui est venu nous montrer comment nous devons vivre. Et le comment va mener à la solution. Le comment va mener à la transformation. C'est la méthode que Jésus veut nous donner pour sortir de notre prison, dans laquelle on peut se mettre et dans laquelle on peut s'enfermer. Dieu a vraiment toutes les réponses pour tous nos besoins et il y répond en temps voulu. Mais je crois qu'en situation d'urgence, et peut-être que depuis un moment dans ta vie, tu te fermes dans ce pourquoi. Pourquoi cette difficulté ? Pourquoi ce combat ? Pourquoi cette maladie ? Au lieu de te concentrer sur le comment, sur la délivrance que Dieu veut t'apporter, sur la solution que Dieu a prévue pour toi. À quoi vas-tu vouloir t'accrocher ? Vas-tu rester sur le pourquoi de la vie ou sur le comment ? Je répète encore, le pourquoi est légitime, mais il ne doit jamais faire passer le comment en second plan. Le pourquoi se comprend, il est humain, mais je crois que le comment, c'est également le résultat de l'évangile, de cette bonne nouvelle. Ce Dieu qui a tellement aimé le monde, qui est venu donner son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ça la vérité, c'est ça le résultat du comment. Comment arriver à se naître de nouveau ? Je crois que la question est importante et qu'elle doit se poser dans chaque cœur. En sommes-nous arrivés là ? Si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous faire pour arriver à cela ? Et je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu étais créé pour la vie, pas pour la survie, pas dans ce quotidien dans lequel on tombe bien trop souvent. Mais Dieu a mis en toi quelque chose de plus qui te conduit à penser à lui. Et tous les hommes, toutes les tribus, toutes les nations en tout temps se sont créés des dieux, se sont créés des idoles, se sont créés des religions pour établir une relation pendant trop longtemps brisée. Mais il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule solution pour combler ce manque, c'est Christ. Il n'y a qu'une seule solution pour combler le vide de ton cœur, c'est Jésus. C'est celui par qui tu as été créé. La Bible nous dit que nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés pour Dieu. Et nous avons été créés en Dieu. Mais malheureusement, cette relation s'est éloignée. Cette relation a pris des distances. Et même si l'homme a des capacités, et la Bible dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, et malgré ses capacités, bien trop souvent l'homme va les gâcher. Bien trop souvent, nous avons ce sentiment de passer à côté, ce sentiment de péché tout simplement, car c'est ça le péché, c'est manquer le but pour lequel on a été créé, passer à côté de l'objectif que Dieu a mis sur notre vie. Et je crois que s'il y a déjà un premier miracle qui est celui de la naissance physique, qui est celui de la naissance de chacun d'entre nous, car nous avons été désirés par Dieu, ce miracle-là reste limité par le péché, comme je l'ai dit, par le fait de manquer le but, de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Et malheureusement, nous sommes de la nature de la personne qui nous a façonnés. Et certes, nous avons été façonnés par Dieu, mais nous avons été aussi façonnés par nos parents, par des êtres humains. Et il y a également une autre loi spirituelle qui va être dite par l'apôtre Paul, qui va dire « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je finis par faire le mal que je ne veux pas faire. » Comme si quelque part, nos résolutions entraînaient des mauvaises actions. Comme si quelque part, nos bonnes pensées avaient pour conséquence de mauvaises choses. Même si son regard était tourné vers un objectif louable, même s'il souhaitait avancer dans une direction, cet homme n'arrivait pas à enlever ces liens qui l'environnaient. Comprenez-moi, c'est pas de chaînes qu'il tenait prisonnier, du moins pas de chaînes physiques, mais c'était des liens qui existaient bien, comme ces liens qui peuvent exister dans ta vie, peut-être des liens de souffrance, des blessures invisibles que les autres ne voient pas, mais que toi tu reçois, peut-être ce poids qui te suit partout où tu vas, peut-être ces addictions. C'était le quotidien de l'apôtre Paul lorsqu'il en parlait. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il est capable de briser n'importe quel lien. Et c'est celui qui est venu pour briser les ordonnances qui nous rendaient captifs. C'est celui qui est venu pour briser toutes les lois qui peuvent nous retenir. Comme je l'ai dit, il y avait une loi spirituelle, celle du péché dont l'apôtre Paul a parlé. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Et cette loi, elle a pour conséquence de nous éloigner de notre Créateur. Cette loi, elle a pour conséquence de nous éloigner du chemin qui a été tracé par Dieu. Parce que nos choix vont nous éloigner de Dieu, que ce soit dans notre nature. La colère, le mensonge ou le refus qu'on peut ressentir dans certaines circonstances, tous nos choix vont creuser un fossé, une séparation entre Dieu et nous. Tous nos choix vont mettre une limite, comme créer un mur entre Dieu et nous, et tout cela va nous éloigner de lui. Et si l'homme a été créé avec des capacités, il est malheureux de voir que par ses choix, il va se fixer des limites. Si l'homme a été créé dans un but précis, si Dieu t'a donné vie pour un but précis, il est malheureux de voir que par nos choix, par cette vie de péché, nous nous éloignons bien trop souvent de l'objectif que Dieu a mis sur nos vies, des choix dans lesquels Dieu souhaite nous diriger. Et pour arriver à cette voie-là, je crois que nous avons tous besoin d'une naissance spirituelle. C'est la seconde naissance, c'est de celle-là que Jésus va parler dans le texte qu'on a lu. Et pour cela, nous avons besoin de passer de l'invisible au visible. Nous avons besoin de croire en la puissance de Jésus. Nous avons déjà besoin d'écouter premièrement ce qu'il a à nous dire. Mais ensuite, cette écoute va créer de la foi, car la Bible dit « La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu ». As-tu une communion avec Dieu? Cherches-tu sa présence? Est-ce que tu es capable d'écouter sa voix, de savoir la direction qu'il a prévue dans ta vie? Je répète, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Une autre version dit, la foi vient de ce qu'on écoute, ce qui demande un degré d'implication beaucoup plus important. Et c'est ça ensuite qui crée la foi, c'est ça qui nous permet de communier avec Dieu. Nous ne naissons pas chrétiens, nous ne naissons pas avec une relation forcément évidente avec Dieu. Mais au contraire, par nos choix, nous créons ou nous ne créons pas cette relation-là. Et par tes choix, aujourd'hui, tu es capable de créer ou non cette relation avec Dieu. Passer de l'invisible au visible, C'est ce que Jésus te demande finalement. Mais combien de nos blessures invisibles, de nos blessures invisibles sont à l'origine de comportements visibles? Combien de fois, derrière une personne qu'on peut regarder, une apparence qu'il va y avoir, il y aurait une blessure qui va être marquée par des mots qui ont été prononcés, par des conflits que nous allons vivre, par des traumatismes que nous avons, qui nous suivent peut-être depuis tellement d'années, ce poids de la vie, cette souffrance qu'on ne peut pas échapper et qui nous poursuit comme notre ombre et de laquelle on ne peut pas se débarrasser et qui entraîne la mort spirituelle. Ces mauvaises paroles qui ont été prononcées, peut-être des paroles de malédiction, peut-être des insultes, peut-être des souffrances qui viennent de nos proches. Et cela, seul Jésus est capable de nous en délivrer parce que lui a les paroles de la vie éternelle. Parce que lui est capable de nous redonner l'espoir. Et là où le péché a abondé, la grâce de Dieu est capable de surabonder. Venir à Christ, ce n'est pas simplement une goutte d'eau dans un désert. Ce n'est pas simplement profiter de quelques instants un dimanche après-midi et ensuite passer au rythme quotidien de la semaine et repasser dans des moments difficiles. Mais l'œuvre que Jésus souhaite faire en nous, cette naissance spirituelle, c'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours de nos vies. C'est quelque chose qui est capable de nous aider dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est cette présence qui nous permet d'être plus fort que ce que nous sommes tout seuls. Et la foi, c'est cela. C'est devenir plus fort. C'est pas peut-être l'image que tu as de la religion. Et c'est vrai, la religion est comme ça. Mais la relation avec Dieu n'est pas la religion. J'insiste là-dessus. Et la relation avec Dieu, c'est être plus fort. C'est pas se fixer des limites. C'est pas simplement une vie marquée de traditions ou marquée de commandements. Mais c'est une relation pure, profonde avec Dieu. Et je crois que c'est ça, passer de l'invisible au visible. Et je vais parler d'un exemple pour le représenter. Et peut-être que pour toi, tu n'es rien. Peut-être que pour toi, ta vie spirituelle ne vaut rien aujourd'hui. Mais en mathématiques, c'est vrai qu'il y a une loi qui est simple, une loi mathématique. Si on multiplie n'importe quel chiffre par zéro, le résultat est le même, c'est zéro. J'étais pas très bon en maths, mais il me semble que c'est ça. On multiplie 0 fois 100, le résultat sera 0. 0 par 1 million, ça sera pareil. Mais, et Dieu soit béni, lorsque Dieu vient dans une vie, quelle que soit cette vie-là, même la vie la plus bas tombée, même la vie la plus hideuse peut-être par rapport aux hommes, même cette vie-là, elle vaut bien plus que toutes les vies remplies de toutes les richesses du monde, mais qui ne sont pas sans Dieu, mais qui sont sans Dieu. Et grâce soit rendue à Dieu pour cela. Parce qu'avec Dieu, nous sommes capables de faire des exploits. Parce qu'avec Dieu, toutes les difficultés de ce monde peuvent être franchies. Et c'est celui qui souhaite te faire franchir des paliers dans ta vie. Peut-être que tu estimes que tu ne vaux pas grand-chose dans la foi. Peut-être que, comme Nicodème, tes traditions, tes règlements, ton code de vie t'interdit quelque part d'accepter Jésus. Mais Nicodème, il était capable d'aller au-delà de tout cela. Il était capable d'accepter Christ. Le texte ne nous dit pas, pardon, mais en étant capable d'accepter Christ, vous ouvrez une porte dans votre vie qui va au-delà de tout cela. En étant capable d'accepter Christ, vous repoussez les limites de ce que vous pouvez voir autour de vous. Et c'est bien ça la vérité. C'est qu'en étant avec Christ, vous devenez une nouvelle création, de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, dit la Bible. Et toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est la vérité de l'Évangile. Cette naissance spirituelle, elle transforme également. Et la question n'est pas de savoir si on est assez bien ou non pour Christ, mais la question est de savoir si on désire assez. Et par ce geste-là, par sa venue à Christ, Nicodème va prouver qu'il désire ce changement. Il va prouver qu'il souhaite vraiment cette transformation. Et je l'ai dit tout à l'heure, passer de l'invisible au visible, et peut-être que ta vie est marquée de choses invisibles, de souffrances que tu as connues et que les autres ne voient pas autour de toi, ou de chaînes qui te retiennent et que les autres ne comprennent pas autour de toi. Mais Jésus est capable de transformer cet invisible, de retourner ces conditions-là et au contraire de lever des choses positives dans ta vie. Comme ce vent que Jésus décrit dans ce texte, ce vent qu'on ne voit pas mais qui nous dirige. Et c'est ça la vie du chrétien finalement, dirigé par le vent, comme ce voilier qui est dirigé et qui va dans une direction et qui a besoin justement de ce souffle pour être dirigé. Et c'est le souffle du Saint-Esprit, c'est cette présence que Dieu veut mettre dans ta vie. Celui qui a dit, voici je serai avec vous tous les jours de votre vie. Celui qui veut nous accompagner dans tous les moments. Et ce vent de Dieu, il est assez doux pour ne pas nous blesser, mais il est aussi assez fort pour nous conduire, pour nous pousser, pour nous lever, pour nous toucher là où nous sommes. Et je crois que c'est important de réaliser à quel point notre Dieu est un Dieu de grâce, mais c'est aussi un Dieu de justice. Notre Dieu est un Dieu de grâce car il pardonne. Notre Dieu est un Dieu de grâce car il relève. Notre Dieu est un Dieu de grâce car il est bon, mais c'est aussi un Dieu de justice. C'est aussi un Dieu qui a fixé des commandements et qui, malheureusement, lorsque nous ne sommes pas saints, lorsque nous ne sommes pas en communion avec nous, ne peut pas s'approcher assez de nous. Et malgré le fait qu'il tende la main aux hommes, nous passons à côté de lui, tout simplement parce que nous refusons sa justice. Mais les deux vont de pair, et ces deux éléments viennent de la même personne. Et si nous acceptons la grâce de Dieu, nous devons également accepter la justice de Dieu. Le sacrifice de Dieu, celui que Jésus a accompli, et c'est ce dont Jésus va parler dans ce texte. Et quelques pages plus loin, on va voir qu'il va accomplir ce sacrifice. Il parle de ce Fils de l'homme qui va être élevé, et c'est cette image-là qui représente son sacrifice sur la croix. Toute sa vie, Jésus va être abaissé, toute sa vie, Jésus va être humilié par amour pour nous, toute sa vie, Jésus va accepter cette position de serviteur par amour pour nous. Et le seul moment où, entre guillemets, il va être élevé, c'est sur une croix. Le seul moment où il va être, entre guillemets, élevé, c'est dans la souffrance. Le seul moment où il va accepter d'avoir cette place-là, où les hommes vont l'appeler roi, c'est sur le bois de la croix. Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. C'est lui-même qui a déclaré cette parole. Mais il est aussi venu prendre notre place. Il est aussi venu se charger de nos souffrances. Il est venu pour nous faire du bien. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus est celui qui a transformé ses paroles en actions. Il ne s'est pas arrêté à des simples mots. Tu n'arrêtes pas à des simples mots cet après-midi de ma part, mais va plus loin. Et si tu vas plus loin, tu verras que Jésus est capable de te transformer. Cette nouvelle naissance, elle n'est pas possible par nos propres œuvres, elle n'est pas possible par nos propres actions. Mais elle est possible en acceptant Jésus. Et tout dépend en fait de celui qui en est l'auteur, pas simplement de celui qui le demande. Et je crois que cette nouvelle naissance, elle ne dépend pas simplement de ton degré de perfection cet après-midi, mais elle dépend du degré de perfection de celui qui en est l'auteur. Elle dépend du degré de perfection de celui qui est capable du miracle. Et celui qui est capable du miracle, je le répète, ce n'est pas nous, mais c'est Jésus. Il est à l'origine de tout cela. Et il sera également à la conclusion si tu lui remets ta vie, si tu lui fais confiance et si tu viens vers lui. Par contre, si elle ne dépend pas de l'auteur, par contre, si elle ne dépend pas de toi, dans ton degré de perfection, elle va dépendre de toi, dans ton degré d'acceptation. Si toi, Jésus ne te demande pas maintenant d'être parfait, mais que lui, il est capable, par contre, il le dit dans sa parole, il est capable de faire de chacun d'entre nous de nouvelles personnes. Et c'est ce qu'il souhaite. Il est capable de te transformer. Parce qu'il venait partager du temps avec les pécheurs. Il venait, et les pharisiens lui reprochaient ça à cette époque, il venait passer du temps avec des personnes de mauvaise vie. Mais si Jésus est capable de faire cela, c'est parce qu'il est aussi capable de les relever, comme il l'a fait dans la vie de nombreuses personnes dans la Bible, mais aussi dans la vie de nombreuses personnes dans le monde entier, en France, à Annecy, à Albertville, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et je le répète, cette nouvelle naissance, elle ne dépend pas de notre degré de perfection. Mais lui, il est parfait. Et parce que lui est parfait, cette nouvelle naissance est possible encore cet après-midi. Par contre, elle dépend de notre degré d'acceptation. À quel point vas-tu laisser Jésus agir? À quel point vas-tu accepter cette vérité? Que vas-tu faire de cette vérité? Vas-tu la mettre de côté? On ne sait pas ce que Nicodème va devenir finalement. On ne sait pas s'il accepte ou non cette parole qui est prononcée. On sait que deux fois, il va se poser la bonne question. Comment? Et pas simplement pourquoi, mais comment? Comment avoir la vie éternelle? Comment être sûr que ses péchés sont pardonnés? Et malgré sa foi, malgré sa piété religieuse, Nicodème n'avait pas la réponse à cette question. Et c'est pour ça qu'il la pose à Jésus. Parce que toutes ses traditions, tous ses préceptes, tout son fonctionnement, son mode de vie, et malgré que pour les hommes, il était quelqu'un de juste, il n'avait pas la réponse à cette question-là. Il n'était pas sûr d'avoir une relation profonde avec Dieu. Il n'avait pas cette communion avec lui. Mais Jésus est celui qui nous donne cette communion. C'est le lien entre le Père et nous. Et c'est celui qui est l'image de Dieu. Et changement n'est possible que s'il vient de l'intérieur. Il n'est possible que si au fond de ton cœur, tu fais cette demande à Christ, si tu t'approches sincèrement et que tu veux faire cette expérience. Parce que la foi, je l'ai dit, vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Mais la foi se vit également. Elle se met en action. Et Dieu est celui qui résiste aux orgueilleux, mais il est aussi celui qui fait grâce aux humbles. Nicodème a été capable de faire preuve d'humilité. Au-delà de toutes les questions que tu peux te poser, je crois que s'il faut en placer une au-dessus, es-tu sauvé ou non? Et sinon, comment être sauvé? Comment être sauvé? Et si ces paroles étaient vraies cet après-midi? Et j'ai la réponse, moi, à cette question. Et je l'ai eue parce qu'un jour, je me suis rapproché de Christ et que je lui ai fait cette simple prière de le recevoir. J'ai demandé de recevoir ce don de Dieu, il est venu dans ma vie. Et je sais que c'est le cas aussi de plusieurs d'entre nous cet après-midi. Veux-tu faire cette expérience avec Dieu? C'est la question que Dieu te pose. Au fond de toi, est-ce que tu as la réponse à cette question? Et si tu ne l'as pas, es-tu prêt à faire ce pas de foi? Ce pas de foi qui était certainement tremblant de la part de Nicodème, parce que quelque part, il avait beaucoup à perdre. Il accepte de venir à Christ, alors que quelque part, il a sa religion, il a un fonctionnement qui peut-être marchait bien, il est bien vu de la société, c'est le chef des pharisiens, le chef de la synagogue, mais il sait que tout cela, finalement, tout ça, c'est rien par rapport à ce que Christ peut lui offrir, par rapport à la vie éternelle que Christ le promet dans sa parole, par rapport à l'amour que Christ veut lui donner, par rapport à cette main tendue de Dieu vers lui. Et c'est ça, Christ, c'est la main tendue de Dieu vers nous. Prier Dieu, venir à Dieu, ça ne se fait jamais sans aucun retour de sa part. Lorsque nous le faisons d'un cœur sincère, et lorsque, sincèrement, oui, je l'ai dit, nous venons à Christ, cette démarche-là, ce geste de notre part, ce mouvement-là, il est suivi aussi d'un mouvement de la part de Dieu, de quelqu'un qui n'est jamais à l'abandon, quelqu'un qui se rapproche de lui. Et ce que je vous propose, c'est qu'on finisse ces moments par la prière. Ensuite, je laisserai la place à Joël. Mais je crois qu'il est important de réaliser que Dieu est là, là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Et lorsqu'il est là, je répète, de grandes choses sont faites pour les personnes qui croient. Et pour qu'il y ait miracle, il faut la présence du miraculeux, donc de Dieu. Mais il faut aussi un mouvement des hommes vers Dieu. Il faut aussi l'expression du besoin à Dieu. Et Dieu est celui qui transforme les situations. C'est celui qui est capable de donner cette nouvelle naissance. Et tout comme une créature ou une création à l'image de son créateur, nous sommes à l'image de nos pères terrestres, nous portons leurs caractéristiques. On peut, en regardant une personne, on peut deviner certainement ses origines, on peut même, parfois en regardant certains visages, le visage de certains enfants, on peut savoir qui sont les parents, parce qu'il y a les caractéristiques génétiques, l'ADN. C'est pareil pour une personne qui naît de Christ. Également des caractéristiques qui doivent être dans sa vie. Ce n'est pas simplement le fait de venir à une réunion, ce n'est pas le fait de posséder une carte de membre, ce n'est pas simplement le fait de fréquenter ou de connaître des chants ou de lire sa Bible, mais c'est une nouvelle vie, cette vie en abondance que Jésus promet. Et des torrents d'eau vive sont censés jaillir de cette vie-là. Est-ce qu'on peut passer quelques instants à la prière ?